Henry James, les papiers de Jeffrey Aspern. Chapitre 1. J'avais mis Mrs. Prest dans ma confidence. À la vérité, sans elle, j'aurais bien peu avancé mes affaires, car l'idée féconde qui conduisit toute l'entreprise me vint par ses lèvres amies. Ce fut elle qui découvrit le raccourci et trancha le nœud gordien. En général, on ne croit pas qu'il soit facile aux femmes de s'élever à une vue large et libre des choses à faire, mais elles lancent parfois telle conception hardie, devant laquelle un homme aurait reculé, avec une sérénité singulière. Bien, faites-vous tout simplement prendre chez elles en qualité de pensionnaire. Je crois que, livré à moi-même, j'aurais reculé devant cela. Je tournais en rond, essayant à être ingénieux, rêvant aux combinaisons qui me permettraient de faire leur connaissance, quand elle suggéra si heureusement que le moyen de faire leur connaissance était de pénétrer dans leur intimité. Elle n'en savait guère plus long que moi sur les demoiselles Bordereau. Je puis même dire que j'avais acquis en Angleterre plusieurs renseignements précis qu'elle ignorait. Leur nom avait été associé bien des années auparavant à l'un des plus grands noms du siècle. Et maintenant, elles avaient obscurément à Venise, avec de très modestes ressources, sans relation, volontairement séquestrées dans un vieux palais croulant et solitaire. Telle était, en résumé, l'impression que mon ami avait d'elle. Elle-même était établie à Venise depuis une quinzaine d'années et y avait fait beaucoup de bien. Mais le rayonnement de sa bienfaisance n'avait jamais atteint les deux timides, mystérieuses et, ainsi qu'on se permettait de le supposer, tout juste respectables américaines, qui ne demandaient pas de faveur et ne souhaitaient pas attirer l'attention. On semblait croire qu'elles avaient, au cours de leur long exil, perdu toute attache avec leur pays, étant d'ailleurs, comme l'impliquait leur nom, de lointaine filiation française. Dans les premiers temps de son séjour, Mrs. Prest avait une fois tenté de les voir, mais n'avait réussi à approcher que la petite, ainsi qu'elle appelait la nièce. Bien qu'en fait, j'ai découvert ensuite qu'elle était du point de vue de la taille la plus grande des deux. Elle avait entendu dire que Miss Bordereau était malade, et la soupçonnant dans le besoin, elle s'était rendue au vieux palais pour offrir son aide afin que s'il y avait là quelque souffrance, spécialement quelque souffrance américaine, sa conscience n'eut rien à lui reprocher. La petite l'avait reçue dans la grande salle vénitienne froide et ternie, pièce centrale de la maison, au pavé de marbre et au plafond de poutre à peine visible, et ne lui avait même pas demandé de s'asseoir. Ceci n'était pas encourageant pour moi, qui désirais fréquenter ce foyer, et j'en fis la remarque à Mrs. Prest. Elle répondit toutefois avec profondeur, « Ah, mais il y a une grande différence. J'allais leur imposer mes faveurs, et vous, vous allez leur en demander une. Si elles sont fières, vous tenez le bon bout. » Et pour commencer, elle m'offrit de me montrer leur maison, de m'y mener dans sa gondole. Tout en lui laissant entendre que j'avais déjà été la voir une demi-douzaine de fois, j'acceptais son invitation, car c'était un enchantement pour moi de hanter ces lieux. J'en avais trouvé le chemin le lendemain de mon arrivée à Venise. La description m'en avait été faite auparavant, en Angleterre, par l'ami auquel je devais des renseignements précis concernant la possession des papiers. Je l'avais assiégé de tous mes yeux, tout en dressant mes plans de campagne. Jeffrey Aspern, à ma connaissance, n'y avait jamais mis les pieds, mais par la grâce d'une hypothèse alambiquée, j'y croyais entendre quelque écho mourant de sa voix. Mrs. Prest ne savait rien des papiers, mais s'intéressait à ma curiosité, comme à toutes les joies et tous les chagrins de ses amis. Tandis que nous allions, glissant dans sa gondole, l'étincelant tableau vénitien s'encadrant en droite et à gauche dans la petite fenêtre mobile, je vis que mon ardeur l'amusait vraiment beaucoup, et qu'elle considérait mon intérêt dans un butin possible comme un beau cas de monomanie. À vous voir, on croirait que vous vous attendez à tirer de là la solution du problème de l'univers, disait-elle. Et je repoussais cette accusation en répliquant seulement que si j'avais à choisir entre cette solution précieuse et un paquet des lettres de Geoffrey Aspern, je savais ce qui paraîtrait le bien le plus précieux. Elle affecta de traiter légèrement son génie, et je ne pris aucune peine pour le défendre. On ne défend pas son Dieu. Son Dieu est par soi-même sa propre défense. D'ailleurs, aujourd'hui, après sa longue période d'obscurité relative, il brille haut au firmament dans notre littérature, ainsi que chacun peut le voir. Il est une part de la lumière qui éclaire notre chemin. Tout ce que j'en dis fut que, sans doute, ce n'était pas un poète de femme. Ce à quoi elle répondit assez heureusement qu'elle avait été au moins celui de Mrs. Brodereau. Ce qui m'avait paru le plus étrange en Angleterre avait été de découvrir qu'elle vivait encore. C'était comme si on m'avait dit au temps de Mrs. Siddons, de la reine Caroline ou de la fameuse Lady Hamilton, car il me semblait qu'elle appartenait à cette génération aussi totalement éteinte que celle-là. Mais elle doit être fabuleusement vieille, au moins centenaire, avais-je dit tout d'abord. Ayant ensuite compulsé les dates, je me rendis compte qu'elle ne l'y obligeait pas rigoureusement, que lui permettait en somme de ne pas exceller de beaucoup la commune mesure. Néanmoins, elle était d'âge vénérable, et ses relations avec Geoffrey Aspern dataient de sa première jeunesse. C'est son excuse, dit Mrs. Prest, légèrement sentencieuse, et cependant aussi honteuse de proférer une phrase si peu dans le véritable ton de Venise. Comme si une femme avait besoin d'excuses pour avoir aimé le divin poète. Il n'avait pas seulement été un des esprits les plus brillants de son temps, et dans son temps, quand le siècle était jeune, il y en avait beaucoup, comme chacun sait, un grand nombre, mais l'un des hommes de plus de génie et l'un des plus beaux. Sa nièce, d'après Mrs. Prest, était d'une antiquité moins reculée, et nous risquâmes la conjecture qu'elle n'était peut-être que sa petite nièce. C'était possible. Je n'avais que tout juste ma part dans la maigre somme de connaissances du sujet possédé par mon coreligionnaire anglais, John Cunard, qui n'avait jamais vu le couple. Le monde, ainsi que je l'ai dit, avait reconnu le talent de Geoffrey Aspern, mais Cumnor et moi l'avions reconnu davantage. Aujourd'hui, les foules affluaient à son temple, mais de ce temple, lui et moi, nous considérions les prêtres consacrés. Nous maintenions, et justement, je le crois que nous avions fait plus que quiconque pour sa mémoire, et nous l'avions fait simplement en ouvrant des fenêtres sur quelques phases de son existence. Il n'avait rien à craindre de nous, n'ayant rien à craindre de la vérité, qui seule, après tant d'années écoulées, était intéressante à établir. Sa mort précoce était, ce semble, la seule tâche qui ternit sa gloire, à moins que les papiers demeuraient entre les mains de Miss Bordereau, n'eussent la perversité d'en ramener d'autres au jour. Il y avait eu comme une impression vers 1825 qu'il s'était mal conduit envers elle, de même qu'il avait une impression qu'il avait servi, selon l'expression populacière de Londres, plusieurs autres dames de la même façon cavalière. Cumnor et moi avions pu tirer au clair chacun de ces cas, et nous n'avions jamais manqué de l'acquitter en conscience de toute grossièreté. Peut-être le jugeais-je avec plus d'indulgence que mon ami. Du moins, il me semblait certain qu'aucun homme n'aurait pu marcher plus droit, étant donné les circonstances. Celle-là, presque toujours, avait été dangereuse et difficile. La moitié de ses contemporains, bon, j'exagère un peu, s'était jetée à sa tête, et tandis que l'épidémie faisait rage, elle faisait d'autant plus rage qu'elle était très contagieuse, Quelques accidents, dont plusieurs graves, n'avaient pas manqué d'arriver. Comme je l'avais dit à Mrs. Prest, il n'avait pas été un poète de femme dans la phase récente de sa célébrité. Mais la situation était différente quand sa propre voix se mêlait à ses chants. Cette voix, d'après tous les témoignages, avait été l'une des plus séduisantes qui se soit jamais fait entendre. Orphée les Ménades, tel avait été bien entendu mon jugement plein de prévention quand, pour la première fois, je feuilletais sa correspondance. Presque toutes ces Ménades étaient déraisonnables et beaucoup insupportables. Je ne puis m'empêcher de penser qu'il avait montré une bonté et une patience, qu'à sa place, si je ne pouvais jamais m'imaginer pris à un pareil piège, j'aurais été bien incapable d'imiter. C'était certainement une chose étrange, au-delà des plus étranges, je ne vais pas remplir des pages à essayer de l'expliquer, que pour l'étude de ces autres liaisons et dans toutes les autres directions où avaient porté nos recherches, nous n'avions eu affaire qu'à des fantômes ou à des cendres, purs échos d'échos évanouis, tandis que l'unique source vivante d'informations ayant duré jusqu'à nos jours n'avait pas attiré notre attention. Tous les contemporains d'Asperne avaient disparu, nous le croyions fermement. Nous n'avions jamais pu plonger nos yeux dans des yeux où les siens se fussent reflétés, ou sentir son contact transmis par quelque main vieillie que la sienne aurait touché. La plus morte parmi les morts semblait être la pauvre Miss Bordereau, et cependant elle seule avait survécu. À mesure que les mois s'écoulèrent, nous épuisâmes notre étonnement de ne pas l'avoir découverte plus tôt, et en substance, nous expliquâmes tout par le fait qu'elle s'était tenue tellement tranquille. En somme, la pauvre dame avait eu ses raisons pour agir ainsi. Mais c'était une révélation pour nous que l'effacement à un tel degré eût été possible dans la dernière moitié du 19e siècle, dans le siècle du journalisme, du télégraphe, des photographes et des interviews. Elle n'avait pas pris grand-peine d'ailleurs, ne s'était pas cachée dans quelque coin introuvable. Elle s'était hardiment installée dans une ville exposée à tous les regards. La seule raison apparente de sa sécurité était que Venise contenait tant d'autres curiosités plus considérables. Puis la chance l'avait favorisée quelque peu, comme il a peur du fait que n'était jamais arrivé à Mrs. Prest de la nommer devant moi, bien que j'eusse passé 3 semaines à Venise, sous son nez pour ainsi dire, 5 ans auparavant. Mon amie, il est vrai, ne l'avait guère renommée à personne. Elle semblait presque avoir oublié la persévérance à vivre de Miss Bordereau. Bien entendu, Mrs. Prest n'avait pas les nerfs d'un écrivain. Tout de même, ce n'était pas expliqué comment il se faisait que la bonne femme nous eût échappé que de dire qu'elle avait vécu à l'étranger, car maintes fois nos recherches nous avaient entraînés, non pas seulement par correspondance, mais par enquête personnelle, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, toutes contrées où, sans compter son long séjour, un si grand nombre de trop courtes armées d'Aspern s'étaient passées. Nous étions heureux, au moins, de penser qu'à travers toutes nos reconstitutions, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que nous les avons surfaites. Nous avions seulement, en passant et de la façon la plus discrète, aborder la liaison avec Miss Bordereau. Chose assez curieuse, même si nous eussions possédé les matériaux nécessaires, et nous nous étions souvent demandé ce qu'il pouvait bien être devenu, cet épisode aurait été le plus difficile à traiter. La gondole s'arrêta, le vieux palais était devant nous. C'était une de ces maisons qui, à Venise, portent ce noble nom jusque dans la plus extrême décrépitude. Oh, que c'est joli, ce gris et rose! S'écria ma compagne. Bon, c'était la description la plus juste qu'on en pût faire. Le palais n'était pas remarquable par son ancienneté. Il datait seulement de 200 ou 300 ans, et sa vue ne donnait pas tant l'idée de décadence que celle d'un découragement paisible, comme s'il avait eu en quelque sorte manqué sa carrière. Mais sa large façade, avec son balcon de pierre, régnant d'un bout à l'autre du piano Bonile, au premier étage, avait une bonne allure architecturale grâce à ses pilastres et ses arcades diverses. Et le stuc dont ses murs étaient autrefois enduits était d'un rosé en cet après-midi d'avril. Il donnait sur un canal propre et mélancolique, plutôt solitaire, aux deux côtés duquel courait une étroite riva, petit trottoir commode aux gens de pied, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de pignon en brique, dit Mrs. Prest, mais ce coin m'a déjà paru plus hollandais qu'italien, plutôt d'Amsterdam que de Venise. Il est anormalement propre pour quelques raisons personnelles. Et bien qu'il soit possible d'y passer à pied, c'est à peine si quelqu'un pense jamais à le faire. C'est aussi négatif, étant donné le lieu, qu'un dimanche protestant. Peut-être que les gens ont peur des demoiselles Bordereau. Je suppose qu'elles ont la réputation de sorcières. Bon, j'oublie quelle fut ma réponse. J'étais absorbé par deux préoccupations. La première était que si la vieille dame habitait une maison si grande et si imposante, elle ne pouvait guère être dans la misère et par conséquent ne se laisserait pas tenter par l'occasion de louer deux chambres. J'exprimais cette crainte à Mrs. Prest, qui me donna une réponse des plus positives. Mais si elle n'habitait pas une grande maison, comment pourrait-elle être question qu'elle ait des pièces de trop? Si elle n'était pas grandement logée, vous manqueriez de terrain pour l'approcher. D'ailleurs, une grande maison ici, et particulièrement dans ce quartier perdu, ne prouve rien du tout. Cela marche très bien de pair avec un état de pénurie. Les vieux palais croulants, si vous vous en contentez dans les quartiers excentriques, oh, vous pouvez les avoir pour 5 shillings par an. Et quant aux gens qui y habitent, non, non. Jusqu'à ce que vous ayez exploré Venise, socialement parlant, autant que moi, vous ne pouvez vous faire aucune idée de leur désolation domestique. Ils vivent de rien, car ils n'ont rien pour vivre. La seconde idée qui m'était venue concernait un grand mur nu qui semblait borner un terrain vide de l'un des côtés de la maison. Je le qualifie de nu, mais il présentait du haut en bas des taches à ravir un peintre, des brèches réparées, des plâtres croulants, des briques à demi déchaussées, devenues roses avec le temps. Quelques arbres maigres et des supports de treillage délabrés apparaissaient au-dessus de la crête. Ce terrain vide était un jardin et apparemment dépendait de la maison. Je sentis soudainement que cette dépendance me fournissait le prétexte cherché. Je demeurai là, dans l'ombre de notre Felsée, regardant avec Mrs. Prest tout ce décor baigné de la lumière dorée de Venise. Et elle me demanda si j'allais entrer maintenant ou si je reviendrais un autre jour. D'abord, je ne pus me décider. C'était sans doute une faiblesse de ma part. Je voulais encore espérer que je découvrirais un autre moyen d'accès. Je redoutais un insuccès, car en ce cas, ainsi que je le fis remarquer à ma compagne, je n'aurais plus une corde à mon arc. Mais pourquoi n'en auriez-vous plus d'autres? Interrogea-t-elle, tandis que je me tenais là, assis, hésitant et méditatif. Et elle désira savoir pourquoi, même à cette heure, et avant de prendre la peine de devenir leur pensionnaire, ce qui, après tout, pouvait bien se révéler atrocement inconfortable, dans le cas où ma démarche réussirait, je n'usais pas de la ressource de leur offrir franchement une somme d'argent. De cette façon, j'obtenais ce que je voulais sans passer de mauvaises nuits. Oh, chère madame, m'écriai-je, pardonnez-moi l'impatience de mon ton, si je me permets de vous dire que vous semblez avoir oublié la raison même, oh, sûrement je vous en ai fait part, qui m'a contrainte à avoir recours à votre génie. La bonne femme ne veut même pas qu'on fasse allusion à ses reliques et à ses souvenirs. Ils sont personnels, délicats, intimes. Et elle n'a pas la façon de sentir d'aujourd'hui. Dieu merci. Si je frappais cette corde tout d'abord, je gâterais certainement le jeu. Je ne puis obtenir mes dépouilles qu'en la prenant par surprise. Et elle ne peut être surprise que par une manœuvre séduisante et diplomatique. Hypocrisie, duplicité, voilà mon unique chance. Alors, je suis bien fâché, mais il n'y a pas de bassesse que je ne commette pour l'amour de Jeffrey Aspern. Il faut d'abord que j'aille prendre le thé avec elle, puis je jetterai l'hameçon. Et je lui répétais ce qui était arrivé à John Cumnor après qu'il eût respectueusement écrit. Il n'avait été tenu aucun compte de sa première lettre, et la seconde avait obtenu une réponse fort sèche de la nièce en 6 lignes. Miss Bordereau la priait de dire qu'elle ne pouvait s'imaginer ce qu'on lui voulait en les dérangeant ainsi. Elle ne possédait aucun héritage littéraire de M. Aspern, et l'eût-elle possédé, et ne pouvait concevoir la pensée de le montrer à qui que ce fût, sous quelque prétexte que ce soit. Elle ne saurait imaginer à quoi il faisait allusion, et le priait de la laisser tranquille. Certainement, je ne désirais pas être accueilli de cette façon-là. Eh bien, dit Mrs. Prest, après un moment de silence et avec malignité, peut-être n'ont-elles rien réellement? Et si elles nient carrément, comment pouvez-vous être assuré du contraire? Bonne John Cumnor n'est sûr, et cela me prendrait trop longtemps de vous raconter comment sa conviction, ou ses très fortes présomptions, assez fortes pour résister aux mensonges, en somme admissibles de la bonne femme, s'est faite là-dessus. D'ailleurs, il fait grand cas de la preuve sous-jacente de la lettre de la nièce. La preuve sous-jacente. Oui, le fait de l'appeler Monsieur Aspern. Bon, je ne vois pas ce que cela prouve. Mais cela prouve de la familiarité. Et la familiarité implique la possession de souvenirs, d'objets tangibles. Je ne puis pas vous dire combien ce monsieur me trouble. Quel pont il jette sur l'abîme qui nous sépare du passé. Et rapproche mon héros de moi. Combien il aiguise mon désir de voir Juliana. Vous ne dites pas Monsieur Shakespeare. Le dirais-je davantage si j'avais une malle pleine de ses lettres? Ah oui, s'il avait été votre amant et que quelqu'un les désirât. Et j'ajoutais que John Cumnor était tellement convaincu et affermi dans sa conviction par le ton de Miss Bordereau, qui serait venu lui-même à Venise pour cette affaire, si ce n'était la difficulté d'avoir, pour gagner leur confiance, à nier son identité avec la personne qui leur avait écrit. Ce que les vieilles dames soupçonneraient sûrement, en dépit de toute dissimulation et d'un changement de nom. Si elles en venaient à lui demander carrément s'il n'était pas le correspondant repoussé, ce serait trop embarrassant pour lui de mentir. Tandis que moi, heureusement, je n'avais aucune entrave de ce genre. J'étais le nouveau relais, je pouvais protester sans mentir. Mais il vous faudra prendre un faux nom, dit Mrs. Prest. Juliana vit aussi à l'écart du monde qu'il est possible, mais néanmoins, elle a dû entendre parler des éditeurs de M. Aspern. Elle possède probablement ce que vous avez écrit. J'y ai pensé, répliquai-je. Et je tirai de mon portefeuille une carte de visite proprement gravée, avec un nom de guerre heureusement choisi. Mais vous êtes extrêmement dépensier, ce qui ajoute à votre immoralité. Vous auriez pu écrire cela à l'encre ou au crayon, dit ma compagne. Mais ceci a l'air plus naturel. Bon, certainement, vous avez le courage de votre curiosité, mais ce sera gênant pour vos lettres. Elles ne vous arriveront pas sous ce masque. Mon banquier les recevra, et j'irai les prendre chez lui chaque jour. Cela me fera une petite promenade. Sera-ce la seule que vous ferez? Ne viendrez-vous pas me voir? Demanda Mrs. Prest. Oh, vous aurez quitté Venise à cause des chaleurs longtemps avant que j'aie obtenu un résultat. Je me prépare à rôtir ici tout l'été, aussi bien que tout le long, au-delà, me direz-vous. Et tout ce temps-là, John Kulmer me bombardera de lettres adressées sous mon faux nom aux bons soins de la Badalona. Elle reconnaîtra son écriture, suggéra ma compagne. Sur l'enveloppe, il peut la déguiser. Eh bien, vous faites un joli couple. Vous en avez de bonnes à vous deux. Est-ce qu'il ne vous vient pas à l'esprit que, bien que vous puissiez nier être M. Kummler en personne, elle pourrait tout de même vous soupçonner d'être son émissaire? Bien certainement, oui, et je ne vois qu'un moyen de parer celle-là. Qu'est-ce que cela peut être? J'hésitais un moment. Ben, faire la cour à sa nièce. Oh! S'écria mon ami, attendez de l'avoir vue. Chapitre 2. Ah, il faut que je tire parti du jardin, il faut que je tire parti du jardin, me disais-je à moi-même 5 minutes plus tard, tandis que j'attendais là-haut dans la salle longue et obscure, dont le sort de ces Cagliari-là luisait vaguement grâce à un interstice des volets clos. L'endroit était émouvant, bien que quelque peu secret et froid. Mrs. Price s'était envolée, me donnant rendez-vous d'ici environ une demi-heure sur les 2 degrés d'eau voisins. Et après avoir tiré une sonnette à chaîne rouillée, j'avais été introduit dans la maison par une petite servante rousse au teint blanc, toute jeune et pas laide, qui portait des patins sonores et son châle sur la tête comme un capuchon. Elle ne s'était pas contentée d'ouvrir la porte en manœuvrant la poulie gémissante de l'étage supérieur, suivant le système en usage. Elle m'avait d'abord regardé du haut d'une fenêtre, en me posant cette interrogation défiante qui, en Italie, précède toujours l'acte d'admission. Je me sentis irrité, pour le principe, de cette survivance de mœurs moyenâgeuses, quoique j'eusse dû l'apprécier en amateur si passionné, bien que très spécialisé, des choses d'autrefois. Mais, plein de la résolution d'être affable à tout prix dès le début, je tirai ma fausse carte de visite de ma poche et la lui montrai d'en bas en souriant, comme si c'eût été un talisman, et de fait cela en eut tout l'effet, car cela la fit descendre, comme je l'ai dit, jusqu'à l'entrée. Je la priai de la porter à sa maîtresse, ayant tout d'abord écrit en italien les mots Auriez-vous l'extrême bonté de recevoir un instant un voyageur américain? La petite bonne ne se montra pas hostile. C'était peut-être déjà quelque chose de gagné. Elle rougit, elle sourit, et parut à la fois amusée et effrayée. Je voyais bien que mon arrivée était toute une affaire, que les visites étaient rares dans cette maison et qu'elle était une de ces personnes qui aiment les places à remue-ménage. Quand elle referma la lourde porte derrière moi, je sentis que j'avais pris pied dans la citadelle et me promis fermement de ne pas m'en laisser déloger. Elle trottina à travers la grande salle humide tout en pierre du rez-de-chaussée et je la suivis sans hésitation le long du haut escalier qui me parut encore plus en pierre que le vestibule. Je crois qu'elle avait eu l'intention de me faire attendre en bas, mais telle n'était pas mon idée et je m'arrêtai dans la salle. Elle disparut tout au bout dans des régions impénétrables. Je regardais autour de moi avec un battement de cœur qui me rappelait ce que j'avais éprouvé dans des salons de dentiste. La pièce était d'une majesté austère, mais elle devait ce caractère presque uniquement à ses nobles proportions et aux belles portes vraiment architecturales, aussi hautes que des portails, qui menaient aux autres chambres et se présentaient avec symétrie sur chaque paroi. Elles étaient surmontées de vieux écussons peints, mais décolorés, et ici et là étaient appendus aux panneaux des tableaux noircis, que je jugeais particulièrement mauvais dans des cadres abîmés, détériorés, décorés, néanmoins encore plus désirables que les toiles elles-mêmes. En dehors de quelques chaises de paille adossées au mur, La grande salle obscure ne contenait rien de nature à satisfaire la curiosité. Il était évident qu'elle ne servait jamais que de passage, et encore rarement. J'ajouterai que, pendant le temps qui s'écoula avant que s'ouvrît de nouveau la porte par laquelle la petite servante s'était échappée, mes yeux s'étaient accoutumés à l'obscurité. Ma réflexion intérieure à propos du jardin ne signifiait nullement que j'eusse l'intention de cultiver moi-même le sol de l'enclos broussailleux qui s'étendait sous les fenêtres. Mais la dame qui vint vers moi du fond de la pièce, à travers le dallage dur et brillant, aurait pu le supposer à la manière dont je m'écriais. M'avançant rapidement vers elle et prenant le soin de mieux m'exprimer en italien. « Oh, le jardin, le jardin! Oh, faites-moi la grâce de me dire s'il est à vous !» Elle s'arrêta court et me regarda avec étonnement. Puis, « Rien n'est ici, n'est à moi !» répondit-elle en anglais, froidement et tristement. « Oh, vous êtes anglaise ! Quel bonheur ! » m'écriai-je ingénument. « Mais dites-moi, le jardin appartient certainement à la maison. »« Oui, mais la maison ne m'appartient pas. » C'était une longue personne, maigre et pâle, qui semblait vivre dans une robe de chambre de couleur sombre, et elle parlait très simplement et doucement. Elle ne me demanda pas de m'asseoir, pas plus que plusieurs années auparavant, si elle était bien la même. Elle me l'avait demandé à Miss Prest, et nous étions debout face à face dans la salle pompeuse et vide. Eh bien alors, auriez-vous la bonté de me dire à qui je dois m'adresser? J'ai peur que vous ne trouviez horriblement familier, mais vous savez, il me faut un jardin. Sur mon honneur, il me le faut. Son visage n'était pas jeune, mais il était candide. Il n'était pas frais, mais il était clair. Elle avait de grands yeux, qui n'étaient point brillants, et beaucoup de cheveux, qui n'étaient point arrangés, et de longues mains fines, qui, peut-être, n'étaient pas propres. Elle joignit ces dernières presque convulsivement, tandis qu'avec un regard troublé et alarmé, elle laissait échapper. « Oh, mais oh, ne nous le prenez pas, nous l'aimons nous aussi. »« Ah, vous en avez la jouissance, alors !» « Ah oui, si ce n'était pour cela !» Et elle sourit d'un pâle et vague sourire. « C'est un luxe exquis, n'est-ce pas? C'est bien pourquoi, ayant l'intention de demeurer à Venise quelques semaines, peut-être tout l'été, ayant un travail littéraire à poursuivre, à lire et à écrire, de sorte qu'il me faut du calme et néanmoins, s'il se peut, beaucoup de plein air, c'est bien pourquoi je sens qu'un jardin m'est indispensable. » J'en appelle à votre propre expérience, continuai-je avec le sourire le plus engageant que j'osais risquer. Alors, pourrais-je jeter un coup d'œil au vôtre? Je ne sais pas, je ne comprends pas, murmura la pauvre femme, plantée là, comme laissant son étonnement débile se débattre plutôt à son désavantage. Je le sentais avec mon originalité. Seulement, de l'une de ces fenêtres, une de ces grandes que vous avez là, si vous me permettez d'ouvrir les volets. Et je marchais vers la façade postérieure de la maison. Lorsque je fus à mi-chemin, je m'arrêtai et j'attendis, comme si j'étais persuadé qu'elle voudrait m'accompagner. Je m'étais trouvé dans l'obligation d'agir exabrupto, mais je m'efforçais en même temps de lui donner l'impression de mon extrême courtoisie. Oh, j'ai visité des chambres meublées dans tous les quartiers, et il paraît impossible d'en trouver qui ait la jouissance d'un jardin. Naturellement, dans un lieu comme Venise, les jardins sont rares. Or, c'est absurde, si vous voulez, pour un homme, mais je ne puis vivre sans fleurs. Oh, il n'y en a pour ainsi dire pas ici. Elle vint plus près, comme si, bien qu'elle se méfiât de moi, je l'eusse tiré par quelques fils invisibles. Je continuai à avancer, et elle poursuivit tout en m'accompagnant. Nous en avons quelques-unes, mais de très ordinaires. Leur entretien est trop coûteux, il faudrait un homme. Et pourquoi ne serais-je pas cet homme? Demandai-je. Je travaillerai sans demander de gage, ou plutôt, j'y mettrai un jardinier. Vous aurez les plus jolies fleurs de Venise. Elle protesta par une légère vibration de son qui pouvait être aussi un soupir d'enivrement devant mon esquisse rapide. Puis elle haleta. Mais nous ne nous connaissons pas. Vous, nous ne nous, nous connaissons pas. Ah, vous me connaissez autant que je vous connais, ou plutôt bien davantage, car vous savez mon nom. Et si vous êtes anglaise, nous sommes presque compatriotes. Nous ne sommes pas anglaises, dit mon interlocutrice, m'observant avec une soumission machinale, tandis que je repoussais le volet de l'un des battants de la haute et large fenêtre. Oh, vous en parlez la langue si admirablement. Oserais-je vous demander d'où vous êtes? Vu d'en haut, le jardin était réellement misérable. Cependant, d'un coup d'œil, je jugeais qu'on y pouvait opérer de grandes choses. Perdue dans un abîme d'ahurissement et de douleur, elle ne me fit aucune réponse, et je m'écriai: Mais voulez-vous dire que vous aussi, par bonheur, vous seriez américaine? Oh, je ne sais pas, nous l'avons été. Vous l'avez été? Sûrement, vous n'avez pas changé. Oh, il y a si longtemps. Il me semble que nous ne sommes plus rien maintenant. Si longtemps que vous vivez ici, eh bien, je ne m'en étonne pas. C'est une si belle vieille maison. Je suppose que vous avez toute la jouissance du jardin. Continuai-je, mais je vous assure que je ne gênerai personne. Je serai très tranquille et me tiendrai dans mon coin. Nous en avons tous la jouissance, répéta-t-elle, comme dans le vague, sans s'approcher de la fenêtre, mais en regardant mes chaussures. Elle semblait me croire capable de la jeter dehors. Enfin, je veux dire votre famille, tous, tant que vous êtes. Bon, il n'y a qu'une personne en dehors de moi. Elle est très vieille et ne sort jamais. Je ressens encore le frisson qui me saisit à cette exacte identification de Juliana. En dépit de quoi, néanmoins, je ne perdis pas la tête. Ah, seulement une autre personne dans toute cette grande maison? Je feignis d'être non seulement stupéfait, mais presque scandalisé. Chère madame, alors, vous devez avoir de la place à revendre. À revendre, répéta-t-elle, comme pour le seul plaisir intense et inaccoutumé chez elle d'entendre ses propres paroles. Ou quoi, sûrement, vous n'habitez pas deux femmes paisibles, vous au moins, êtes paisible, je le vois, 50 pièces. Puis, dans un élan d'espoir et de bonne humeur, je priai directement la question. Ne pourriez-vous pas, pour un bon prix, m'en louer deux ou trois? Oh, c'est cela qui m'irait bien. J'avais maintenant exposé le thème qui exprimait mon désir, et il n'est pas nécessaire de répéter toute la musique que j'en tirais. Je finis par persuader mon interlocutrice que j'étais un être dépourvu de mauvais dessein, mais évidemment je ne tentais pas de lui persuader que je le fusse d'excentricité. Je répétais que j'avais des études à poursuivre, que j'avais besoin de calme, qu'un jardin faisait toutes mes délices et que j'en avais vaguement cherché un par toute la ville, que je prenais l'engagement qu'avant un mois d'ici, la chère vieille maison disparaîtrait sous les fleurs. Je crois que ce sont les fleurs qui me firent remporter la victoire, car je découvris plus tard que Mistina, tel fut le nom quelque peu incongru qui se trouva être celui de la longue et balbutiante demoiselle, avait pour elle un appétit insatiable. Quand je parle de victoire remportée, je veux dire qu'en la quittant, j'emportais la promesse qu'elle en référerait à sa tante. Je la priai de m'informer qui sa tante pouvait bien être, et elle répondit: Mais Miss Bordereau, avec un air surpris, comme si c'était une chose admise que je ne le susse. Il y avait en Mistina de ces contradictions qui, ainsi que je l'observais plus tard, contribuait à la rendre également et agréablement déconcertante et intéressante. C'était le souci de ces deux dames de vivre de telle sorte que le monde ne parlât pas d'elles et ne les approchât point, et cependant elles n'étaient pas complètement résignées à l'idée qu'on les ignorât, mais au moins chez Mistina, toute capacité d'entrer en contact avec les humains et de s'en montrer reconnaissante n'était pas éteinte. Ce contact, je l'établirais dans une certaine mesure si je venais à vivre dans la maison. Mais nous n'avons jamais rien fait de ce genre, nous n'avons jamais eu de pensionnaire, ni d'hôte d'aucune sorte. Elle mit son point d'honneur à bien établir le fait. Nous sommes très pauvres, nous vivons très médiocrement, presque de rien. Les pièces, enfin celles que vous pourriez avoir, sont nues. Elles ne contiennent absolument rien. Je me demande comment vous feriez pour y coucher, pour y manger. Oh, avec votre permission, je pourrais facilement y mettre un lit, quelques chaises et des tables. C'est la moindre des choses et l'affaire d'une heure ou deux. Je connais un petit bonhomme qui me louerait pour une bagatelle le peu dont j'aurais besoin, enfin ce qui m'est indispensable. Mon gondolier apporterait tout cela dans son bateau. Sans doute, dans cette grande maison, vous devez avoir une seconde petite cuisine, et mon domestique, qui est étonnamment débrouillard. Ce personnage est une invention subite de ma part, m'y cuira aisément une côtelette. Mes goûts, mes habitudes sont les plus simples, je ne vis que de fleurs. Puis, je m'hasardais à ajouter que, si elles étaient très pauvres, c'était une raison de plus pour louer leur chambre. Elles étaient mauvaises économistes. On n'avait jamais vu un tel gaspillage de matières premières. Je m'aperçus immédiatement que la bonne dame n'avait jamais été traitée de telle façon. Avec une fermeté cordiale qui n'excluait pas la sympathie, qui au contraire se fondait sur elle. Elle aurait bien pu me dire que ma sympathie était de l'impertinence, mais par bonheur, elle n'y pensa point. Je la quittai, après qu'il eût été entendu qu'elle soumettrait la question à sa tante et que je pourrais revenir le lendemain à prendre leur décision. Ouf, la tante refusera, elle trouvera toute cette manigance très louche, déclara sèchement Mme Spratt peu après, lorsque j'eus repris ma place dans sa gondole. C'était elle qui m'avait mis l'idée dans la tête. Et maintenant, oh, tant il faut peu compter sur les femmes, elle semblait l'envisager sans le moindre espoir. Son pessimisme m'irrita, je prétendis nourrir les plus brillantes espérances. J'allais même jusqu'à me vanter d'avoir le net pressentiment de mon succès. Là-dessus, Mrs. Prest éclata. « Oh, je vois ce que vous pensez. Vous vous imaginez que vous avez fait une telle impression en 5 minutes qu'elle meurt d'envie de vous avoir et qu'on peut compter sur elle pour convaincre la vieille. Eh bien, si vous y arrivez, vous compterez cela pour un triomphe. » Je comptais cela, en effet, pour un triomphe, mais seulement pour le critique, non pour l'homme, qui n'avait pas la manière en fait de conquête. Quand je retournai le lendemain, la petite servante me mena tout droit à travers la longue salle. Elle développait comme hier sa profonde perspective et était plus éclairée, ce que je trouvais de bon augure, à l'appartement d'où, à ma dernière visite, mon hôtesse avait émergé. C'était un salon spacieux et fané, avec un beau vieux plafond peint, sous lequel une étrange figure était assise, seule auprès d'une fenêtre. Ils me reviennent maintenant, avec la palpitation qu'ils me causèrent alors, les états d'esprit successifs qui, la porte refermée, derrière moi, amenaient à ma connaissance que j'étais réellement face à face avec la Juliana de quelques-unes des pièces lyriques les plus exquises et les plus célèbres d'Aspern. Je m'habituai à elle plus tard, bien que jamais complètement. Mais là, tandis qu'elle était assise devant moi, mon cœur battait aussi fort que si le miracle de la résurrection se fût effectué pour mon seul bénéfice. Sa présence semblait en quelque sorte contenir et exprimer l'autre, celle du poète, et je me sentis plus proche de lui en ce premier instant où je la vis, que je ne l'avais jamais été et que je ne le fus jamais depuis. Oui, je me rappelle mes émotions, dans leur ordre, y compris un singulier petit frémissement qui me saisit quand je m'aperçus que la nièce n'était pas là. Avec celle-là, je m'étais familiarisé la veille, mais c'était au-dessus de mon courage, bien que j'eusse tant désiré l'événement, d'être laissé seul avec une relique aussi terrible que la tante. Elle était trop étrange, trop littéralement ressuscitée. Puis je me sentis comme repoussé, en m'apercevant que nous n'étions pas réellement face à face, car elle avait sur les yeux une horrible visière verte qui lui servait pour ainsi dire de masque. Sur le moment, je crus qu'elle l'avait mis exprès afin de pouvoir, de là-dessous, me dévorer à son aise sans que je pusse la grignoter le moins du monde. En même temps, cela me donnait comme le soupçon de quelque terrifiante tête de mort se dissimulant là derrière. La divine Juliana, devenue un crâne ricanant, la vision se dressa devant moi, puis s'évanouit. Puis je pensais qu'elle était formidablement vieille, si vieille que la mort pouvait l'emporter à tout moment, avant que j'eusse le temps d'atteindre mon but. Une seconde pensée vint corriger celle-là, éclairer la situation. Elle allait mourir la semaine prochaine ou demain. Alors je sautai sur sa propriété et je pillai ses tiroirs. Pendant ce temps, elle se tenait assise, sans bouger ni parler. Elle était très petite et réduite à rien, toute penchée en avant, les mains sur ses genoux. Elle était vêtue de noir, sa tête enveloppée dans une vieille dentelle noire qui cachait ses cheveux. Mon émotion me réduisant au silence, elle prit la parole la première, et la remarque qu'elle énonça tout d'abord fut véritablement celle que j'aurais le moins attendue d'elle.